Bonjour à tous, nous sommes dans l'émission Ma commune est utile. Aujourd'hui, exceptionnellement, notre émission a lieu à Sarliac, où se déroule le congrès des maires ruraux. Je suis en présence d'Alain Buffière.
Bonjour à tous. Alain Buffière, maire de Sarliac. Bon, écoutez, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ma commune l'Assemblée générale des maires ruraux de Dordogne. Et c'est un réel plaisir pour moi parce que je considère que c'est une association qui défend au mieux les intérêts de la ruralité et les intérêts de nos petites communes rurales.
Tu peux préciser un petit peu, ta commune, elle est de combien d'habitants et pourquoi?
C'est une commune de 1050 habitants, à 15 km de Périgueux. Nous avons encore la chance d'avoir quelques commerces, boucherie, boulangerie, restaurant, encore une pharmacie. Mais nous venons aussi de perdre cet automne le médecin, ce qui est un véritable problème par rapport au sujet de la désertification médicale, bien entendu.
Bon, tout à l'heure, tu as intervenu suite à une motion qui a été proposée par M. Castan par rapport à un boulanger, et tu as intervenu sur le prix de l'énergie. Tu peux en dire un petit mot là-dessus?
Oui, c'est-à-dire que la motion, à mon avis, la motion proposée portait surtout sur comment panser les plaies. Mais en fait, je pense que nous sommes dans une société en France où jamais on ne remet en cause les fondements des grandes décisions. Et en ce qui concerne l'énergie, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est quand même le fruit d'une politique de libération de l'énergie qui a été mise en place depuis les années 1996-1997, et nous en payons les conséquences aujourd'hui. Et je fais allusion donc à la libération du marché de l'électricité et tout ce qui tourne autour de l'AREN, avec la volonté de l'État de faire émerger des sociétés concurrentes à EDF, obliger EDF à vendre l'énergie à 42 euros le mégawattheure au coût de production, inférieur au coût de production, et pour faire émerger une trentaine de sociétés dont on connaît à peine les noms, mais qui ont fait envoler, bien entendu, le prix de l'énergie, puisque ce prix de l'énergie s'est retrouvé à 200, 300, 400 et voire jusqu'à 600. Je me trompe d'unité, même 2000, 3000, 4000, 6000 euros le mégawattheure. Donc c'est un prix de l'énergie qui a été multiplié par 5 ou voire par 10.
Et donc, toi, tu as des répercussions sur ta commune, par exemple, par rapport à ces prix de l'énergie?
Mais nous sommes restés avec le fournisseur historique, avec EDF, et je pense qu'on a eu la bonne vision, parce que je crois que c'est surtout avec les sociétés qui ont émergé que le prix de l'énergie s'est envolé. Avec EDF, c'est multiplié par 1,5 à 2, mais on surveille attentivement la facture énergétique, hein, parce que ça a des conséquences pour notre commune considérables, quoi.
Oui, parce que cette augmentation, c'est une baisse de budget, de l'investissement, tout ça.
Oui, parce que l'électricité sur une commune, c'est les bâtiments communaux, mais c'est aussi l'éclairage public. Et donc, ça fait vite une facture d'énergie qui représente 10% des dépenses de fonctionnement. Donc ça impacte fortement le résultat à l'arrivée, quoi. Et en ce moment, depuis une dizaine d'années, même plus une quinzaine d'années, la baisse des dotations, la stabilisation des dotations, on a l'impression, nous, commune rurale, d'être prise dans un étau au point de vue économique, et c'est de plus en plus difficile à gérer. Et ensuite, ça a de véritables répercussions sur le tissu économique, puisque je considère que les communes sont un véritable levier pour l'investissement et pour la commande publique. Et si nos budgets ne le permettent plus, ça limite bien entendu les investissements sur la commune, et ça limite les possibilités pour les entreprises du bassin de vie, quoi.
On va revenir un petit peu aux entreprises. Tu as quelques entreprises sur ta commune. des petits artisans, mais eux, ils subissent aussi ces augmentations de l'énergie. Est-ce qu'ils t'en parlent ?
On a, bien sûr, c'est le coût de l'énergie, c'est évoqué dans les rencontres quotidiennes, hein. C'est, que ce soit au niveau des boulangers, des bouchers, tous les commerçants sont impactés fortement. Et bien sûr, on l'a évoqué en Assemblée générale, le président avait sous la main un courrier donc d'un artisan. Et c'est vraiment la survie de nos petits commerces et de nos petits artisans qui est en jeu, quoi.
D'autant plus que à un moment donné, je crois que sur ta commune, il parlait de fermer une classe.
Ah oui, après c'est un autre chapitre, quoi. On est toujours, c'est bien sûr par rapport au maintien des services publics. Et bien c'est là on est à cinq classes. Et c'est vrai qu'il y a une méthode de comptage qui est un peu précoce à mon avis et qui nous donnait un effectif en baisse, alors que dans le moment où on nous a annoncé une fermeture de classe et la date de la commission, finalement on retombe à peu près sur le même effectif à 102, 103 élèves, sur le même effectif. Et donc l'hypothèse de la fermeture, à mon avis, ne se justifiait pas. Et ça a été confirmé par la décision de la dernière commission qui a statué sur le maintien de la cinquième classe sur Sarliac. Oui.
Je reviens un petit peu par rapport à tes commerçants artisans. Là, si tu penses que demain, le boucher, le boulanger ferme, ça ne sera pas un élément pour maintenir des classes. Ils vont profiter parce que les gens, on sait très bien que les gens, ils viennent habiter dans une commune s'il y a un certain nombre de petits services et de petits commerçants.
Alors, la fermeture pour les bouchers, c'est pas l'ordre du jour, mais par exemple, pour la boulangerie, les gérants actuels sont très proches de la retraite et envisagent une succession. Mais donc, une succession pour qu'elle se présente dans des conditions comme ça, bien entendu, c'est très délicat, oui. Après, c'est vrai que par rapport aux écoles, on est quand même une commune attractive et on a de nouvelles constructions et on a aussi un projet pour les années à venir d'aménagement d'un immeuble qui est désaffecté pour l'instant, mais c'est un immeuble de 200 mètres carrés sur trois niveaux, donc 600 mètres carrés. Et donc on envisage avec Périgord Habitat d'y faire 9 logements, donc récupérer du monde et récupérer de la population et avoir des enfants à l'école. Et aussi dans cet immeuble, on envisage, bien sûr, sur le thème de la désertification médicale, on envisage de créer au rez-de-chaussée des locaux médicaux, paramédicaux, pour pouvoir accueillir des professionnels de santé, parce qu'aujourd'hui, on vient juste de perdre notre médecin, il y a quelques mois, qui est un départ à la retraite. Et bien entendu, si on n'a pas de local pour accueillir de nouveaux professionnels de santé, c'est mission impossible, quoi.
Donc on voit que le boulot de maire, c'est pas facile avec tous les problèmes. Bon, je vous remercie pour cette petite interview et je vous souhaite une bonne Assemblée Générale. Merci.
Merci.
Alors, je suis toujours à l'Assemblée Générale des maires ruraux. Je suis en compagnie de
Maurice Chabrol, maire du Bordeaux, vice-président du syndicat des énergies de la Dordogne.
D'accord. Je t'ai entendu parler tout à l'heure à propos de l'énergie.
Alors, à propos de l'énergie, effectivement, que ce qui est mis en place aujourd'hui par notre gouvernement, c'est un système très scandaleux, parce que, bon, il y a le bouclier tarifaire, mais le bouclier tarifaire, c'est juste donner quelques petites primes aux habitants qui ont peu de moyens, mais il y a aussi l'amortisseur qui est pour les entreprises qui ont un tarif au-dessus de 36 kWh. Donc cet amortisseur, c'est un attrape-digo, je dirais, parce que c'est une vente de l'énergie à 180 euros du mégawattheure et tout ce qui va dépasser, l'État va en prendre une partie, mais qu'à 50% du dépassement. Et après, le reste, c'est toujours au client. Voilà.
Donc tu as quelques cas dans ta commune peut-être qui t'ont mis la puce à l'oreille?
Alors dans ma commune, j'ai une scierie qui attend sa facture et qui craint beaucoup. Mais j'ai ma commune voisine où il y a une boulangerie qui a un tarif bien sûr qui dépend de l'amortisseur, un tarif jaune qu'on appelle. Et qu'avec un fournisseur Total Energy, et à qui j'ai donné quelques conseils, parce que bon, je connais un petit peu ce système-là. Et je leur ai conseillé de voir avec EDF, et éventuellement d'avoir deux compteurs bleus pour passer de l'amortisseur au bouclier, qui est un peu plus intéressant. Ils ont reçu EDF et qui leur propose un tarif bleu aujourd'hui pour être un tarif plus intéressant. Donc voilà, bon, sur l'énergie, il y a beaucoup de spéculateurs qui ne devraient pas exister aujourd'hui et que l'État devrait y remédier.
Donc là, tu as donné des pansements pour tes usagers, mais pour toi, quelle serait la solution ?
Alors, pour les usagers, ça, c'est encore autre chose, les usagers.
Les usagers, les entreprises,
déjà. Les entreprises, oui, mais la solution des entreprises, c'est faire aussi de l'autoconsommation. Mais c'est pas toujours évident, faire de l'autoconsommation, parce qu'au départ, il y a quand même un investissement. Après, bon, je fais partie d'une SEM qui apporte des solutions à l'autoconsommation. Donc voilà, bon, on élabore beaucoup de projets aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes en autoconsommation, mais ça ne règle pas tout.
Dans cette Assemblée Générale, on parlait de l'ARENH, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors l'ARENH, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Je dirais, parce que c'est aussi un attrape-digo. C'est aussi, il y a la loi NOM aussi qui a été élaborée par rapport au système allemand, qui aujourd'hui nous pénalise beaucoup. Parce que la loi NOM, c'est aussi, les Allemands ont souhaité que l'énergie électrique soit indexée sur le gaz. Donc c'est ce qui les arrange eux, mais qui ne nous arrange pas en France. Donc, et les Espagnols et les Portugais ne sont pas rentrés dans ce système-là.
Donc, précisez un petit peu l'ARENH pour nos auditeurs.
Alors, l'ARENH, c'est l'agence nationale, c'est une agence nationale, voilà, qui sert de régulateur et qui sert aussi du prix de l'énergie.
Par rapport au nucléaire.
Par rapport au nucléaire, tout à fait, par rapport au nucléaire.
Donc, aujourd'hui, on sait que c'est que l'ARENH, c'est 42 euros
du mégawatt-heure.
Ouais. Hein, que vend EDF à ses concurrents.
Que 20 euros à ses concurrents et qui est revendu peut-être à 180 euros du mégawatt-heure par spéculation.
Et que EDF est des fois obligé de racheter.
Et que EDF est obligé de racheter pour ses clients, voilà, à un prix fort. Voilà, ils produisent à un prix faible qui vendent à un prix faible à leurs concurrents et qui rachètent à ses concurrents pour revendre le système de la loi des marchés. C'est un système européen qui aujourd'hui ne devrait pas exister.
Donc je te remercie et je te souhaite une bonne journée. À bientôt.
Allez, ok.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs sourcils. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Donc je suis toujours à l'Assemblée Générale des Maires Ruraux. Je suis en compagnie de...
Thierry Auroy-Paytou, maire de Lamonzie-Saint-Martin.
Donc je t'ai entendu toi aussi intervenir sur l'énergie.
Oui, l'énergie, je suis contrarié quand je vois aujourd'hui qu'on se rend compte qu'il y a des augmentations d'énergie et le pourquoi, le comment. Il ne faut pas oublier qu'on a ouvert à la concurrence l'énergie, qu'on a démantelé EDF et qu'aujourd'hui on a des sociétés privées qui revendent ce que EDF faisait avant et sur un marché avec des actionnaires. Et aujourd'hui, ceux qui payent, c'est nous tous, le petit commerçant, le petit artisan, les petites industries dans les petits villages que l'on a, qui aujourd'hui risquent de mettre la clé sur la porte parce que, vu les augmentations, qu'ils ne pourront plus survenir à leurs besoins de faire du pain et de revendre et de vivre de leur travail. C'est inadmissible de voir cela et on est au diktat de l'Europe et on le voit. Et aujourd'hui, on constate... tristement d'ailleurs, mais pourquoi ces augmentations? Moi je me rappelle qu'en 97-98 on a mené des batailles contre cette ouverture à la concurrence et aujourd'hui, eh bien, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que je ne m'en glorifie pas, malheureusement on voit aujourd'hui, eh bien, qu'on avait raison à l'époque. On veut ouvrir tout ce qui normalement doit être du régalien. C'est l'État qui doit assurer l'énergie pour les Français. C'est l'État qui doit assurer les transports pour les Français. C'est l'État qui doit assurer la santé, l'éducation, la recherche. Voilà. Ce sont les bijoux de famille qu'on a vendus aujourd'hui. Et j'en suis malheureux, alors que le général de Gaulle et les communistes, pendant la guerre, avaient nationalisé cette énergie, parce qu'ils savaient très bien que l'énergie, sans l'énergie, on ne pouvait pas reconstruire la France. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis ulcéré de voir cela.
Tu as quelques petites répercussions sur ta commune par rapport à ça, sur des artisans, des commerçants?
Oui, j'ai des répercussions. Notre commune aussi, notre budget va être impacté. On va passer de 55 000 euros d'énergie pour l'année 2022 à 133 000 euros pour l'année prochaine. Alors on est une commune de 2800 habitants. On va faire des économies ailleurs pour pouvoir prétendre à ça. Mais je suis ulcéré de voir que j'ai des commerçants. On se bat pour mettre des commerçants dans nos communes. On se bat pour qu'il y ait de la vie, pour que les gens puissent dépenser dans leur commune. Et d'un côté, on va leur augmenter tout ça et ils vont payer, plus les 7,1% d'augmentation du foncier qu'on va avoir au mois d'octobre. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un système, on fonce dans le mur et on klaxonne. Et on met en plus un gyrophare sur la tête.
Tu es aussi membre d'un groupement ou d'une association...
Du ferroviaire. Oui, je suis... L'Union des maires de la Dordogne, le 27 janvier dernier, lors de leur Assemblée Générale, m'ont proposé pour que je sois le référent au niveau des maires de la Dordogne sur toutes les questions ferroviaires et mobilité, puisque je suis aussi vice-président en charge des mobilités à l'agglomération de Bergerac. Et Alain m'a fait la proposition aussi pour travailler avec l'UDM, et bien que l'Association des maires ruraux de France, dont j'appartiens aussi, fasse la même proposition. Donc c'est ainsi fait aujourd'hui, puisqu'il a proposé à cette Assemblée de proposer mon nom pour tout ce qui est les questions ferroviaires, les gares, les ouvertures des guichets, les horaires de train, les fermetures, le foncier. Un maire dans une commune qui a une ligne chemin de fer n'arrivera pas à trouver l'interlocuteur SNCF. Aujourd'hui, on a divisé tellement l'entreprise ferroviaire en plusieurs morceaux qu'il est impossible pour un maire de trouver qui s'occupe des gares, qui s'occupe des trains, qui s'occupe du foncier bâti, etc. etc. Eh bien, aujourd'hui, je serai, leur interlocuteur. Je représenterai ces maires lors de réunions avec les instances qui sont la région politique, la région Nouvelle-Aquitaine et la région SNCF. Et c'est pourquoi le 14 avril prochain, je vais commencer avec la ligne 33, c'est-à-dire Bordeaux-Sarlat, de réunir les maires du linéaire pour, un, me présenter, deux, présenter la SNCF, la région, et de leur dire, voilà, demain, si vous avez des problèmes avec votre gare, votre passage à niveau, votre ligne, si vous avez des revendications ou autres, je serai là gratuitement, parce que c'est une passion que j'ai, aider mes collègues maires à trouver des interlocuteurs pour régler leurs problèmes.
Alors, j'ai entendu, tu parlais de privatisation des lignes. Qu'en est-il sur la Dordogne ?
Alors, aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine souhaite ouvrir à la concurrence. C'est la loi européenne qui impose cela, ouvrir à la concurrence les TER. Il y aura des lots. Le lot 1, c'est la Charente-Maritime. Le lot 2, ça sera Dordogne-Limousin. Ce qui m'inquiète demain, c'est qu'un opérateur, autre que la SNCF, puisse prendre la gestion d'une ligne. Ma question, si demain, ce gestionnaire fait faillite, demain, la ligne est fermée. Et c'est ça, aujourd'hui, je suis ulcéré encore une fois. On est en train de vendre ce qui peut marcher. Alors qu'on passe des conventions avec la SNCF pour 10 ans, en mettant un cahier des charges strict de faire un vrai service public, on a les moyens, la SNCF est capable, et elle est capable, on le voit aujourd'hui, de faire des trains. Aujourd'hui, c'est un leurre. On vend un leurre aux usagers de dire « mais le privé, ça ira mieux ». On verra la même chose qu'avec l'énergie. On verra l'augmentation des prix, des billets, et puis d'une ligne à une autre. Et puis un train de la concurrence qui roulera sur les rails de ferroviaire, les rails de la SNCF, parce que le rail restera à la SNCF. Eh bien, si demain, il y a un arbre au milieu de la voie, si la caténaire est arrachée, si le train arrivera en retard, on aura la même chose qu'avec la SNCF. Donc aujourd'hui, attention à ces ouvertures à la concurrence. Pour moi, c'est encore un diktat de l'Europe. On va ouvrir à la concurrence et on va voir dans 10-15 ans, on fera comme les Anglais ou les Allemands, en revenir en arrière. Alors ne dépensons pas nos deniers pour n'importe quoi. Faisons une convention avec la SNCF, travaillons avec eux pour être stricts sur la qualité des rames, sur la qualité des horaires, sur la qualité du service. La SNCF est capable de essayer de travailler, la SNCF. C'est leur métier, c'est leur cœur de métier. Ne laissons pas ça à des amateurs, à prendre le ferroviaire, à faire du train, alors que ce n'est pas leur cœur de métier. Voilà.
Et je te remercie et je te souhaite une bonne journée.
Merci, merci beaucoup.
À bientôt. Bon, je suis toujours à l'Assemblée Générale de l'Association des maires ruraux et je suis en compagnie de M. Serge Berriou, le sénateur. Que penses-tu de cette assemblée, Jean ?
Alors, bonjour. D'abord, bonjour à tout le monde. C'est une assemblée très intéressante parce qu'elle permet de mettre sur le devant de la scène tous les problèmes auxquels sont confrontés les maires ruraux, notamment puisque là, on est avec les maires ruraux. Et il y en a. Il y a d'énormes problèmes. On est vraiment dans une période extrêmement difficile. Ce matin, on en a évoqué quelques-uns, mais il y a plein d'autres problèmes qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Je pense notamment aux zéro artificialisation nette et aux PLUI qui impactent toutes les communes avec à terme la difficulté de construire, donc d'accueillir de nouvelles familles. Et en cascade, ça a des conséquences sur les écoles, sur un tas de choses comme ça. Ce matin, on a abordé l'énergie, qui est un...
Je crois que c'est important, l'énergie. J'en parlais avec des maires. Ils me disent, si moi demain, j'ai ma boulangerie qui ferme et mes commerces qui ferment, ça ne va pas être attrayant dans ma commune. Et donc, derrière, peut-être que je vais perdre des écoles.
Oui, bien sûr. Mais on l'a dit ce matin, qu'est-ce qui explique une augmentation du coût de l'électricité de 500, 600, 700%? Rien, si ce n'est que l'on a complètement foutu en l'air un système qui fonctionnait bien avec EDF producteur, EDF distributeur et qui marchait. Et je pense que personne ne se plaignait de ce système. Et parce qu'on a voulu faire entrer l'électricité dans un marché, dans le dogme du marché, on est arrivé à avoir des choses totalement aberrantes. On a des distributeurs qui vendent de l'électricité qu'ils ont acheté à bas prix à EDF, qui ne produisent rien, qui font des bénéfices conséquents, qui ont mis en difficulté EDF, et derrière c'est le contribuable qui est obligé de compenser. On est sur des aberrations qu'il va bien falloir changer, sinon c'est toute notre économie. On a parlé ce matin des boulangers, mais tous les artisans, les agriculteurs, les industriels, et il y a quand même dans notre département une industrie qui est forte, avec des gens qui vont travailler, et puis il y a tous les foyers qui n'y arrivent plus. Voilà, donc là il y a une vraie difficulté.
On va peut-être pousser un petit peu. Vous êtes sénateur, donc c'est vous qui faites les lois. Ouais. Que pensez-vous faire dans ce cadre-là pour améliorer et peut-être retourner à une situation normale?
Alors, nous faisons les lois. Je ne suis pas seul, malheureusement, parce que je voudrais ma propre loi. Non, mais on essaie de dire au ministre que ça ne peut pas durer. Et qu'il faut vraiment revenir, comme peut-être l'a fait l'Espagne ou le Portugal, sortir de ce marché européen qui aujourd'hui nous conduit dans une impasse. Et donc nous demandons la nouvelle régulation du prix de l'énergie, du prix de l'électricité. C'est une demande et on doit avoir un débat justement sur la nationalisation d'EDF, parce que l'État nous parle de nationaliser EDF. Bon, pourquoi pas ? Mais pour en faire quoi derrière? Si c'est pour le vendre à la découpe, on n'est pas d'accord. Donc il va y avoir un débat sur la nationalisation d'EDF qui va permettre de faire remonter toute la discussion sur le marché de l'électricité. Mais c'est une des difficultés, c'est malheureusement pas la seule.
On va peut-être revenir sur l'Arenh, oui. Ce scandale. Oui. Vous avez interviewé les trois anciens présidents d'EDF qui ont tous dénoncé ce système.
Oui.
Qu'allez-vous faire par rapport à ça? Parce que c'est l'aberration.
Et oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les grands patrons d'EDF, les directeurs, les présidents directeurs généraux d'EDF, c'est pas eux qui ont la main. C'est le gouvernement qui a la main sur la politique. Et ça, c'est une aberration. Donc, si vous voulez, nous, notre interlocuteur, c'est Bruno Le Maire, en tant que ministre chargé de l'économie. C'est vers lui que nous nous tournons pour dire « nous ne pouvons pas continuer comme cela ». Ce n'est pas possible de continuer comme cela et nous proposons des solutions. Hein, et des solutions qui ne sont pas, qui sont pas révolutionnaires au point... nous disons « il faut au moins temporairement suspendre notre participation au marché européen de l'énergie, comme l'a fait, je le dis, l'Espagne et le Portugal. Il faut au moins, pendant ce temps de crise, suspendre, pouvoir faire une évaluation et ensuite on va voir comment on peut s'en sortir. Mais c'est un sujet sur lequel, je dirais, toute tendance politique confondue, pour l'essentiel, hein, c'est un sujet sur lequel les sénateurs sont très attentifs.
D'accord. Ben, je vous remercie.
Je vous en prie.
Et je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
À bientôt.